Une génisse attaquée et laissée pour morte à la station d'élevage de Nessadiou. La Chambre d'agriculture condamne un acte barbare. La province sud et les habitants d'Yaté s'organisent pour garder ouvert le CMS de la commune. Depuis le 13 mai, la pénurie de médecins s'est aggravée et le centre médical est menacé. Le centre hospitalier du Nord, lui, maintient pendant 2 semaines ses urgences de jour, les consultations et les soins externes. La réserve sanitaire nationale a été sollicitée. Et puis dans le Nord, toujours une bonne nouvelle pour les amateurs de cinéma. Le cinéma de Conné, fermé depuis le début des émeutes, va rouvrir ses portes. Le sport avec le sacre d'une Calédonienne au championnat du monde de kitesurf en Espagne. Phoebe Rocher a remporté le titre mondial des moins de 19 ans. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Une génisse limousine de 16 mois a donc été attaquée et laissée pour morte ce week-end à la station technique de la Chambre d'agriculture à Nessadiou. L'animal a été blessé par ses agresseurs avant de réussir à s'éloigner. Un acte d'autant plus grave que cette jeune génisse avait beaucoup de valeur, précise Jean-Christophe Niotou, le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie.
Il s'agit d'une belle génisse, hein, une jeune génisse, et en plus issue d'insémination, donc à haute valeur en termes génétiques. Et on l'a retrouvée en l'état, dans les parcelles, elle n'a même pas été découpée. En fait, c'est un animal qui a été blessé et qui s'est éloigné du point d'attaque, hein, je pense. Et donc, du coup, il était trop loin pour que les braconniers puissent la dépecer et l'emporter. C'est un acte déjà de barbarie, puisque la bête a été blessée, hein, touchée à la mâchoire. Elle est morte de ses blessures, elle n'a pas été abattue et morte sur le coup. Donc nous condamnons fortement cet acte parce que le braconnage est un vrai problème pour l'élevage calédonien et on constate quand même qu'on a des faits de plus en plus importants et qui risquent d'augmenter dans les semaines et mois à venir avec la crise économique et sociale que nous allons connaître. C'est ce qui nous inquiète le plus aujourd'hui.
Jean-Christophe Niotou qui encourage tous les éleveurs victimes de braconnage à ne pas rester silencieux, d'autant que la gendarmerie a mis les moyens humains nécessaires pour résoudre ce type d'enquête.
La première chose à faire, c'est de porter plainte. De porter plainte et de ne pas toucher la bête qui a été abattue pour que la gendarmerie puisse trouver sur site les éventuelles preuves nécessaires pour mener une enquête. La gendarmerie qui est vraiment à nos côtés, hein, sur le sujet du braconnage, du vol de bétail. On a une très bonne entente avec la gendarmerie. Donc notre volonté aujourd'hui, c'est d'utiliser ce fait malheureux, hein, qui s'est passé à la station d'élevage de Nessadiou pour mettre en avant les procédures à suivre parce que si on ne porte pas plainte, on ne peut pas résoudre une affaire.
Et on peut rappeler que la gendarmerie dispose désormais d'une brigade spécialisée, inaugurée cette année à Moindou, la zone la plus marquée par les faits de braconnage. Un homme a été victime d'un vol de voiture la nuit dernière à la Vallée des Colons. Le conducteur a ramené plusieurs jeunes femmes dans son véhicule et une fois dans le quartier, un des occupants l'a agressé, le forçant à s'arrêter. Un autre homme est intervenu pour prendre le contrôle du véhicule et a pris la fuite avec la jeune femme à son bord. La police a rapidement intercepté le véhicule qui a fini sa course dans un poteau en bord de route. Les deux auteurs de cette exaction sont actuellement en garde à vue au commissariat central. Les émeutes déclenchées le 13 mai dernier par la CCAT ont fait 2 morts et de très nombreux blessés parmi les forces de l'ordre. Tirs à balles réelles, jets de cocktails Molotov, caillassage, les gendarmes, les policiers nationaux, municipaux, mais aussi les services de secours ont été pris à partie avec une extrême violence. Un phénomène dont nous parlerons demain matin sur Radio Rythme Bleu. C'est maître Nathalie Lepape qui défend les victimes dans les rangs des forces de l'ordre, qui sera notre invitée à 7h30. Le collectif des différentes tribus de Yaté s'organise pour assurer la sécurité des médecins du CMS de la commune. Face à la pénurie de personnel soignant, le centre médico-social menaçait de fermer ses portes. Et la province sud a donc réuni les représentants de Yaté pour trouver une solution, Léana Colombo.
Oui, ils étaient une dizaine, dont le maire de Yaté, Victor Gouetcha, avoir fait le déplacement ce matin dans les locaux de la province sud. Et sa présidente, Sonia Baquès, a alerté sur les départs imminents du personnel soignant qui craint pour sa sécurité depuis le 13 mai. Une situation compliquée et généralisée qui nécessite la coopération de tous les partis, explique Sonia Baquès.
C'était important qu'on se parle pour que le collectif comprenne que la situation, d'une part, elle ne concerne pas que Yaté. Aujourd'hui, on a le dispensaire de Thio qui est fermé et celui de l'île des Pins qu'on a du mal à faire tourner, tout simplement parce qu'on n'arrive plus à recruter des médecins. Et on n'arrive plus à recruter des médecins parce qu'on a des grosses difficultés de sécurité dans ces zones-là, où finalement, les médecins sont pris à partie, insultés, menacés, cambriolés. C'est déjà très compliqué à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie de trouver des médecins, mais qu'en plus les conditions de travail sont compliquées, on n'y arrive pas. C'est vrai que le verrou de Saint-Louis, ça aide pas. L'insécurité sur place, ça aide pas. Donc c'est un ensemble. Il faut que les médecins aient une qualité de vie pour qu'ils aient envie de rester. Et ça, ça n'appartient pas qu'à la province sud. La province sud les paye bien, mais ça appartient à la mairie, aux coutumiers, aux populations de mettre tout en œuvre pour fixer des personnels soignants.
Depuis le 13 mai, les désistements se sont multipliés, mais le problème ne date pas d'hier. En 2022, il y a eu 11 médecins différents, 8 en 2023. Et plusieurs solutions ont donc été avancées. On retrouve la présidente de la province sud, Sonia Baquès.
On a vraiment, vraiment du mal à trouver des médecins. On a eu 15 désistements depuis le 13 mai, c'est-à-dire des gens qui étaient prêts à venir en Nouvelle-Calédonie, quasiment sur le départ, et qui nous ont dit finalement on ne vient pas. Donc ça veut dire qu'il faut recommencer toutes les démarches. Il y a sur Yaté un médecin qui a 78 ans, qui est là depuis très longtemps et qui veut bien continuer en fait à être présent. Mais ça ne suffit pas à un seul médecin, puisqu'il ne peut pas faire tout seul H24. Donc il faut qu'on continue à travailler sur le recrutement. En attendant, on a proposé des solutions, notamment en lien avec les médecins au Mont-d'Or Sud, pour qu'il puisse y avoir une permanence de soins, des visioconsultations en attendant. Et on a deux infirmiers qui acceptent de rester sur place également. Donc on va réussir à maintenir un minimum de sécurité sanitaire sur place, mais avec la nécessité de recruter de toute façon des médecins. Dès qu'on en trouvera, on les recrutera.
Les représentants de Yaté se sont donc engagés à assurer la sécurité des médecins qui officient sur la commune, afin de ne pas arriver à une fermeture du CMS, ce qui aurait de graves conséquences pour les habitants. Les précisions du maire de Yaté, Victor Guecha.
Nous, chez Yaté, on s'est engagé avec le collectif, composé de membres des conseils des tribunes de tout Yaté. Donc nous, on s'est engagé avec la gendarmerie, fin de réunion, une hier et lundi dernier, on a fait deux réunions. Donc nous, on s'est engagé à faire la sécurité, pas uniquement du côté des infirmiers et des médecins, mais aussi des enseignants. On est acquis comme les maires des autres communes, surtout de la province sud, l'île des Pins et Thio, aussi acquis que l'un d'eux, du fait que là, à la fin du mois, il n'y aura plus de médecins. Donc l'organisation qui est proposée là, j'espère qu'il va prendre le relais à partir du mois d'octobre, pour qu'on ait quand même un ou deux médecins sur Yaté.
Cette problématique sanitaire ne se limite malheureusement pas uniquement à la province sud. Le nord est également touché. Seuls 5 postes de médecins sur 32 sont pourvus. Les habitants du nord affluent donc en masse dans les dispensaires de Bouraille et La Foix.
Et le centre hospitalier du nord, justement à Koumac, maintient jusqu'à la fin du mois ses urgences de jour, ainsi que les consultations et les soins externes. Une solution provisoire qui permet de rassurer la population du Grand Nord, mais qui ne résout pas les besoins de personnel médical sur le long terme, Jean-François Bonin.
Oui, l'offre de soins continue de se dégrader en province nord, y compris au sein de l'hôpital de Koumac. Toutefois, la direction de l'établissement a pu trouver une solution pour prolonger temporairement l'ouverture des urgences le jour. Une ressource médicale a pu être mobilisée, nous a expliqué le directeur du CHN, Joachim Tutugoro.
Une bonne nouvelle nous est parvenue donc hier. Un médecin qui était sur le territoire donc se proposait de nous rallonger de 15 jours. Donc le temps pour nous de caler nos recrutements en cours de médecins hors zone européenne. J'espère que les négociations vont aboutir. C'est toujours dépendant de la situation de crise actuelle, hein, crise sécuritaire surtout. Sachant qu'entre-temps aussi, nous avons enclenché la réserve sanitaire qui devrait arriver dans la dernière semaine de septembre aussi. On a surtout donc la garantie, deux prochaines semaines, les urgences restent ouvertes la journée avec des consultations, les soins externes, voilà.
Jusqu'au 27 septembre, les urgences de l'hôpital de Koumac seront donc ouvertes en journée, du lundi au vendredi de 8h à 16h. Elles seront toutefois fermées la nuit et le week-end. Une ouverture le jour, c'est un minimum, estime le maire de Koumac, dont les habitants, nous a dit Wilfried Weiss, restent inquiets.
Les habitants s'organisent tant bien que mal, mais surtout les habitants subissent ce manque de médecins, ce manque d'infirmiers, etc. Aujourd'hui, ils sont inquiets par rapport aux urgences, parce que vous savez que les urgences, à partir de 16h, jusqu'à 6 heures du matin, il n'y a plus d'urgence en semaine et que le week-end, il n'y a plus d'urgence. Donc ça veut dire que quand il y a quelque chose de grave qui se passe, eh ben, on doit descendre sur Poney qui est à plus d'une heure et demie de voiture.
Ce qu'il faut, estime Wilfried Weiss, c'est trouver des solutions pérennes et aussi travailler avec les autorités sur la question de la sécurité. C'est en effet l'une des raisons qui provoque le départ de personnel soignant dans le Grand Nord.
C'était évoqué avant les événements du mois de mai. Chaque commune a essayé de mettre en place des choses avec la province pour sécuriser les centres hospitaliers, les CMS, etc. Mais ça n'empêche pas le désert médical qu'on a actuellement. Aujourd'hui, c'est un désert médical. Donc je pense qu'il faudrait peut-être que la Nouvelle-Calédonie aussi déclare la Nouvelle-Calédonie comme désert médical. Sur la région du Nord, on a un médecin à Gomène, un médecin à Koumac, encore 15 jours, 15 jours, 15 jours. et pas de médecin à Poum, pas de médecin à Ouézois, pas de médecin à Puebo. Voilà, donc toute cette région-là, il n'y a plus personne.
Et en attendant de trouver des solutions sur le moyen et le long terme, les urgences de l'hôpital du Nord vont donc rester ouvertes en journée jusqu'au 27 septembre. Le CHN a enclenché, vous l'avez entendu, une demande de recours à la réserve sanitaire qui devrait arriver à la fin du mois.
17h56, dans un instant, la suite de l'actualité.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance, choisissez les ambulances Saint-Jacques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Gilles Ménage.
Avec la sécheresse, le nord du territoire est en ce moment particulièrement vulnérable aux incendies depuis plusieurs jours. Hélas, le SIVM intervient sur de très nombreux départs de feux d'origine criminelle. Le major Eric Blum est le chef de corps des pompiers de Koumac, à La Gomène et Poum.
On a une explosion du nombre de départs de feux de brousse. Beaucoup de malveillance. Vraiment, il y a une volonté de brûler. On va prendre ce week-end, donc 7 départs de feu le long de la RPN7, ce qui nous a obligés de couper cette taxe entre Koumac et Ouégoua. Ça, c'est pas accidentel, c'est pas la foudre qui est tombée. Hein. Encore hier soir, sur notre secteur, on a eu plusieurs départs de feu dans l'agglomération. Donc des personnes qui mettent le feu délibérément, que ça soit en bord de route, dans le village ou même dans des propriétés. Hier soir, on a eu 2 départs de feu qui ont été mis volontairement dans le jardin de personnes. Alors là, on a un véhicule qui est engagé, qui est reparti sur la RPN7 entre Koumac et Ouégoua, qui effectue des reconnaissances suite à un feu qui était dans des zones inaccessibles. Visuellement, on sait qu'il y a entre 200 et 300 hectares qui sont déjà partis. Mais c'est un chiffre qui doit être loin de la vérité parce qu'il y a plein de parties où on n'a pas de visuel. C'est parti dans les crêtes et dans des endroits qui sont inaccessibles. Et là, on ne peut pas calculer la superficie.
Le SIVM Nord qui est appuyé par des effectifs de la DSCGR et qui profite évidemment de l'appui des populations qui aident très souvent à lutter contre les flammes. J'ajoute qu'un feu est actuellement en divagation sur le col d'Amos. Côté Puebo, aucune habitation n'est toutefois menacée. Et puis après avoir déblayé les axes routiers de la côte ouest, notamment entre Vaux et Koumac, tous les moyens sont aujourd'hui mobilisés pour déblayer les routes de la côte est. 10 camions bennes, 2 semi-remorques plateaux, 2 pelleteuses et une balayeuse sont au travail. 110 gendarmes sont par ailleurs engagés pour accompagner cette opération, Sarah Mégerie.
Des barrages impressionnants par leur volume ont été déblayés sur la commune de Pointe-d'Imier. Au total, 250 carcasses ont été enlevées entre Pointe-d'Imier et le pont de la Chamba. Des barrages qui étaient filtrants, mais la route n'était pas totalement libre, ce qui a notamment pénalisé les poids lourds. Paul Sandevoir, commandant de la compagnie de Pointe-d'Imier.
Nous avons traité la partie Tiwaka en premier le mercredi 4 septembre. Il y avait sur place 79 carcasses. Ces 79 carcasses ont été prises et emmenées vers la côte ouest parce que nous n'avons pas de lieu de stockage ici sur la côte est qui nous permette d'accueillir un tel volume. Et ensuite, ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, l'opération de déblaiement continue. Là, actuellement, nous sommes à 10 km de Pointe-d'Imier vers le sud, c'est-à-dire au niveau de la maison commune de Baye. Il nous reste encore 9 km à faire jusqu'à la Chamba. Et jusqu'ici, nous avons récupéré 140 carcasses. Et en tout, 34 bennes de déchets verts, de végétaux, qui ont été entreposés sur les terrains que les coutumiers nous ont laissés à disposition de façon à pouvoir dégager la route.
La mairie de Pointe-d'Imier a pris la décision de fermer depuis hier l'école de Baye pour des raisons de sécurité lors de cette opération de déblaiement. Les explications du commandant Paul Sandevoir.
L'école de Baille est située juste en face de la maison commune de Baille, qui est un point de rassemblement des militants de la CCAP. Il n'y avait pas forcément beaucoup plus à cet endroit-là d'obstacles ou de déchets. En fait, il y en avait partout, absolument partout, entre Point-d'Imier et Nevao, c'est-à-dire au pont de la Chamba. Et dans le cadre des opérations de déblaiement, les conditions de circulation sont rendues difficiles. Il faut savoir, bon, il y a la RT3, ce n'est qu'une route. Les engins travaillent sur les deux côtés de la chaussée, ce qui fait que nous sommes obligés d'arrêter la circulation en général pendant une demi-heure. Ensuite, on laisse repartir la circulation. Ensuite, on referme pour à nouveau travailler sur les tronçons. Et donc, la mairie de Point-d'Imier a pris la décision de fermer l'école de Baille parce que les engins qui travaillaient à proximité ne permettaient pas d'assurer une sécurité optimum et également beaucoup d'embêtements pour les usagers de la route sur ce tronçon-là du fait du travail des engins. Je pense que nous ne finirons pas les déblaiements du secteur sud de Point-d'Imier avant la Chamba, au moins avant deux jours. Par contre, aujourd'hui, nous allons dépasser l'école de Baille. Il n'y aura plus de chicane et la chaussée sera totalement libre.
L'école de Baille devrait donc rouvrir bientôt. La mairie de Point-d'Imier communiquera sur la situation prochainement.
Radio Rythme Bleu, 18h01.
Une bonne nouvelle pour tous les cinéphiles. Le cinéma de Connay rouvre enfin ses portes. La fermeture du Nian pendant les émeutes avait engendré des soucis techniques qui ont récemment pu être réparés grâce au déblocage des routes. Dès demain, les habitants du Nord pourront donc de nouveau profiter du grand écran et de tous les blockbusters avec des séances prévues principalement le soir, explique Douglas Hickson. Il est responsable de la programmation et de la communication au Cinécity.
C'est une réouverture avec des séances à 17h30 ou le soir, pas plus tard, 16h40 même, parce que pour Monte Cristo, puisqu'en fait, on fait une séance mercredi après-midi, une séance vendredi soir, deux séances samedi et deux séances le dimanche. Au niveau de la programmation, on a choisi de mettre à l'écran les programmations qui ont fait le succès des mois de juillet et d'août, puisqu'en fait, c'est vrai que là, il y a eu plusieurs films importants qui n'avaient pas eu l'occasion d'être programmés à Connay. C'est le cas de Monte Cristo, mais aussi les deux dessins animés Vice Versa 2 et Moche et Méchant 4, et puis deux films plus pour ados-adultes qui sont Deadpool versus Wolverine et Alien Romulus. Donc en fait, on redémarre avec ces blockbusters, et puis dès la semaine prochaine, on reviendra avec des films qui sont complètement de sortie nationale, en pleine actualité mondiale.
Douglas Hickson, à propos de la réouverture du cinéma de Connay, donc informations et réservations sur place bien sûr, ou encore sur le site internet cinécity.nc. À Connay toujours, notez que le conseil municipal se réunit ce soir. Il sera notamment question pour les élus d'évoquer un rapport sur la situation financière de la commune. Depuis hier matin, des navettes dédiées aux élèves du lycée du Mont d'Or ont été mises en place pour leur permettre d'aller en cours. Leur mise en place a suscité de l'incompréhension de la part de certains parents sur le wharf du Vallon d'Or, principalement ceux des élèves des collèges de la Conception et de Boulary qui ne comprennent pas pourquoi les enfants ne sont pas prioritaires sur ces navettes. Le personnel sur place leur a rappelé que ces quatre navettes sont dédiées à certains élèves et professeurs du lycée du Mont d'Or. 100 élèves au total sont pour l'instant autorisés à les utiliser sur les 400 élèves du lycée. Florent Perrin, le président de l'Association des citoyens mondoriens.
Les décisions et les consignes ont été données sur le terrain pour les élèves du lycée du Mont d'Or. Et ces élèves-là doivent présenter une attestation ici sur le wharf au personnel qui est présent pour pouvoir accéder à cette priorité. Aujourd'hui, les personnels qui étaient sur le wharf ont permis aussi à d'autres élèves, notamment de la Conception, de pouvoir être prioritaire. Donc ça s'est mieux passé ce matin. En général, dès qu'il y a une nouveauté, c'est toujours un petit peu compliqué aussi. Donc voilà, il faut que les choses se mettent en place et ça irait mieux, j'espère, dans les prochains jours.
La province sud doit en effet apporter des améliorations à ce service dans les jours qui viennent. Quatre navettes de 12 places font actuellement des allers-retours pour les élèves concernés du Vallon d'Or à Boulary de 6h30 à 8h et de 15h à 16h30. La taxe sur le sucre est entrée en vigueur le 1er septembre dernier, destinée à permettre au gouvernement de mettre en place des actions de prévention. Son rendement est estimé à entre 1 et 1 milliard et demi de francs par an. Une taxe controversée dont nous avons parlé ce midi dans notre magazine Citoyen. Et pour le docteur Dominique Mégrawa de l'Agence sanitaire et sociale, cette taxe répond avant tout à une catastrophe sanitaire.
Elle est censée répondre à notre principal problème de santé publique, qui est l'obésité. L'obésité de l'adulte, mais aussi l'obésité de l'enfant. C'est devenu une priorité de santé publique tout récemment. Et donc, sur les recommandations de l'OMS, la Nouvelle-Calédonie suit cette caravane de cette taxe sucre qui existe depuis plus de 50 ans à travers le monde, plus de 100 pays. Et la Calédonie avait pris un petit peu de retard. Ces chiffres de l'obésité sont effrayants. C'est 38% des adultes, plus du double de la métropole. C'est déjà 20% des enfants de 12 ans. Ça coûte 20 milliards chaque année à la Nouvelle-Calédonie. Le diabète qui en découle est la première cause de longues maladies avec 10 milliards de coûts annuels. Donc la Calédonie n'a plus les moyens de cette politique curative. Il faut viser aujourd'hui le préventif. On sait qu'un franc investi dans le préventif rapporte, économise 4 francs. Et donc cette taxe sucre s'inscrit dans ce chemin.
Si l'expérience des autres pays démontre que les effets de cette taxe sur la santé publique ne sont mesurables qu'environ 10 ou 15 ans après sa mise en place, les professionnels de l'alimentation, sans y être opposés, contestent le timing. C'est le cas du directeur de Cake Factory pour Jonathan Sartou. Ce n'était tout simplement pas le moment.
Et tombe plus que mal, quoi. On est déjà à bout de souffle. Ça fait 4 mois qu'on tire sur nos entreprises et qu'on tire sur nos corps à nous et qu'on a été obligé de licencier la plupart de nos salariés. On est déjà à l'agonie, quoi. Remettre une taxe sur des taxes qu'on n'arrive déjà pas à payer, comme la TGC, comme la CAFA, du RUAM pour nous en perso ou de la CRE. On est déjà à échelonner les paiements sur les 6 prochains mois ou sur l'année à venir. Nous remettre une taxe là à prendre sur au moins le chiffre d'affaires qu'on fait, c'est diminuer encore la part de chiffre d'affaires, forcément, puisqu'on va la redonner après au gouvernement. Donc c'est encore une fois, on va couper la part du gâteau. Il n'y a déjà plus de gâteau, en fait.
Nous étions également en compagnie de la nageuse Solène Figuez, qui a créé le centre Santéo, mais aussi de Giacomo Ciocca, le directeur général de Sweety, un magazine à retrouver en audio sur notre site internet. En bref, le gouvernement alerte sur des attaques et des arnaques malveillantes sur les réseaux sociaux visant l'un de ses membres, Yannick Slamet. Ces actes visent à porter atteinte à la sécurité et à la réputation de nos représentants et sont condamnés avec la plus grande fermeté, peut-on lire dans un communiqué du gouvernement qui rappelle que toutes les communications officielles concernant ces activités et celles de ses membres ne proviennent que des canaux institutionnels officiels. Le gouvernement qui se dit déterminé à poursuivre toute personne impliquée dans ces actes malveillants et qui ne resteront pas impunis. Fin de citation. Et puis toujours en bref, la CPME se félicite de l'adoption par le Congrès d'une résolution qui porte un plan quinquennal ambitieux et porteur d'espoir, écrit le syndicat patronal, pour revitaliser notre tissu économique. La reprise ne pourra se réaliser qu'avec un accompagnement massif de l'État à la mesure de l'ampleur de son effondrement, écrit encore la CPME.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, avec d'abord la réponse à notre question d'hier. 93% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS se disent satisfaits de la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre. Ils ne sont que 5% à ne pas partager cet avis. Et voici notre question du jour. Maintenant que les Jeux Olympiques et Paralympiques sont terminés, êtes-vous favorable au maintien des anneaux olympiques sur la Tour Eiffel, comme le souhaite la maire Anne Hidalgo ? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1. Si vous y êtes opposé, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Le sport, il en sera de nouveau question dans un petit instant sur Radio Rythme Bleu, juste après une pause de pub.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
Le fitness débarque au quartier latin avec The Box. Un univers où l'on casse les codes avec des entraînements pour tous, des cours collectifs agréés les MILS et des cours coachés en small group. The Box, ouverture le 30 septembre. Renseignements au 74 08 25.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et le sport, j'y ménage.
Et ça commence par une très bonne nouvelle en kitesurf, puisque 2 Calédoniens ont réussi à se hisser sur le podium des championnats du monde junior à Tarifa, c'est en Espagne. Phoebe Rocher a même décroché une superbe couronne mondiale, Léana Colombo.
Oui, ils étaient 55 athlètes venant de 13 pays différents. Et c'est dans la catégorie U19 Twin Tip Freestyle que Phoebe Rocher, troisième l'an passé, a décroché ce titre mondial junior. Du côté des hommes, le Calédonien Antoine Olivier est devenu vice-champion du monde dans cette même catégorie freestyle. Champion du monde en 2023, Antoine Olivier n'a malheureusement pas réussi à conserver son titre. La France a tout de même placé 7 riders sur le podium.
À l'actualité sportive, c'est aussi du football avec la suite du trophée du Grand Nouméa.
La fin hier soir de la 3e journée avec un match en retard. Magenta s'est largement imposé 4-1 sur Gaïcha et rejoint Tigasport et Horizon Sport en tête du classement. Et puis 2 rencontres sont programmées pour cette 4e journée. Le premier match match a débuté à 18h. L'AS Mondor affronte l'OSI. Et à 19h45, place à l'AS Gaïtcha qui affronte de nouveau Tigasport.
Et puis de l'haltérophilie sur le territoire avec la Coupe du Mondor, c'était samedi.
La première compétition de la saison 2024-2025 a rassemblé des plus jeunes aux plus expérimentés. Et chez les hommes, c'est Sylvain Duclos qui s'impose. Du côté des femmes, victoire de Demi Dabin. Mention spéciale pour Matisse chez les moins de 15 ans et Anne-Mé chez les moins de 20 qui ont réalisé les minima pour les championnats de France junior 2025.
Notez enfin que dans un communiqué publié cet après-midi, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie exprime sa fierté et adresse ses sincères félicitations à l'ensemble des athlètes calédoniens qui ont participé aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Depuis quelques années, écrit le gouvernement, l'exécutif travaille à élaborer une stratégie sportive de haut niveau afin de soutenir les athlètes calédoniens dans leur préparation pour ces compétitions. Pour rappel, en 2023, ce sont ainsi plus de 15 millions de francs qui ont été alloués à 13 sportifs dans le cadre de leur préparation olympique et paralympique. Cet effort financier, écrit le gouvernement, témoigne de la volonté de l'institution de contribuer à l'épanouissement de nos talents sportifs et de les voir briller sur la scène internationale. On termine avec la météo.
La météo avec la SET. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
On vous écoute pour les détails, Nicolas.
Alors, cette nuit, sur l'ouest, le ciel sera clair à peu nuageux. Sur le reste du territoire, les nuages reprendront l'avantage. Sur l'ouest, le vent d'est-sud-est mollira autour de 10 nœuds, avec toutefois dans l'axe de certaines vallées sur le nord, des accélérations à plus de 15 nœuds. Ailleurs, l'Alizé ne fléchira pas et restera proche de 20 nœuds, voire parfois plus de 20 nœuds avec des rafales à 30 nœuds sur la côte est à Pointe-Nord, Ouvéa et Diffou. La nuit se réchauffera un peu avec des températures comprises entre 18 et 21 degrés. Localement 13 à 17 degrés, ce sera sur l'ouest. Demain matin sur la côte ouest, la matinée sera très ensoleillée. Ailleurs, le soleil sera passagèrement très nuageux avec des averses isolées sur le sud et le nord-est. Le vent d'est-sud-est à sud-est sera souvent proche de 20 nœuds, voire plus de 20 nœuds sur la pointe nord. Sur l'ouest, il sera plus faible en début de journée, mais se renforcera rapidement au sud-est entre 15 et 20 nœuds, Gilles.
Merci pour tous ces détails. La fin de cette édition à 18h passée de 13 minutes. Merci de votre fidélité.